belgo-américain Michel Feher avec le journaliste David Dufresne sur sa chaîne YouTube Au Poste. Il parlait du livre qui a été publié par Michel Feher et qui a pour titre « Redevenir juif ». Alors bien sûr que vous pouvez écouter la suite de cet entretien passionnant sur la chaîne Au Poste. Nous sommes à la fin de notre émission, alors je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Bonsoir, vous écoutez Jeudi Noir 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et qui, voilà, c'est Jeudi Noir qui commence donc, sur Radio Libertaire, je sais plus ce que j'ai dit. Et Jean-Mathias m'a déconcentré, c'est de sa faute. Et donc, ce soir, c'est Jean-Mathias qui va nous présenter un livre de Simone Veil. Donc Simone Veil, W-E-I-L, c'est la philosophe, pas la femme politique morte il n'y a pas très très longtemps. Et donc, femme politique de droite, oui, et donc Simone Veil, bon, j'imagine que la plupart de nos éditeurs et nos auditrices en ont entendu parler. C'est donc une philosophe du début du XXe siècle, qui a été formée par le philosophe Alain, entre autres, mais dont elle s'est éloignée sur pas mal de sujets, et c'était une femme, une philosophe extrêmement brillante, voire illuminée, si j'ose le jeu de mots. Et mais qui dans l'action politique a été toujours extrêmement déterminée. Et donc, après avoir été brièvement professeur de philosophie dans une campagne plutôt abandonnée, où elle s'est donnée à fond, non, parce qu'elle ne se donnait pas relativement, Simone, elle y allait à fond. Et, et donc, après avoir été une prof de philo très très investie, très très sacrificielle et tout, elle a fait tout un tas de choses. Et en particulier, elle s'est, avant même les années 70, établie. C'est-à-dire qu'elle allait bosser en usine pour voir ce qui arrivait à ces pauvres ouvriers. Donc elle a découvert son incapacité technique et manuelle, mais qu'elle décrit dans des carnets assez intéressants, les carnets d'usine, enfin qui valent le coup carrément d'être lus, mais comme tout Simone Veil. Et puis là, c'est Jean-Mathias va nous présenter quelque chose d'un peu plus spinoziste peut-être. Il a même pas réagi, mais j'arrive plus à le faire réagir. Et donc, ce sont les...
Je finis.
D'accord. Non, j'essaie de poser des questions aussi longues que toi, sans poser de questions, mais sans le dire, tout ça. Donc, donc c'est quatre articles qui ont été réunis chez Libertalia, donc sous le titre « Grève et joie pure ». C'est des articles qui ont été réunis et présentés par Charles Jacquet, qui est un très grand spécialiste de l'histoire ouvrière et de toutes ces questions, qu'il connaît sur le bout des doigts. Il a aussi travaillé chez Agone. En général, c'est quelqu'un des... Comment dire, ouais, d'un érudit monumentalement informé qui a toujours des choses passionnantes à raconter. Donc Jean-Mathias va se présenter.
Le petit recueil de texte, juste pour le contexte et la motivation de la présentation, il a été édité chez Libertalia en 2016, donc il y a exactement 10 ans, ce qui n'est pas un hasard, puisque en fait, alors c'est un petit recueil d'articles, hein, Grève et joie pure, Simone Veil chez Libertalia. Il y a 3 articles et puis une ébauche en fait qui n'a pas été publiée. Et en fait, ce sont des articles qui encadrent, on peut dire, le mouvement de grève générale du Front populaire et en juin 36. Donc, la réédition, j'imagine, chez les amis de Libertalia a été liée aux 80 ans du Front populaire. Nous, on est dans la dynamique des 90 ans, puisque c'est cette année. Ce mouvement de grève générale, c'est juin 1936, et juin, c'est la semaine prochaine, voilà. Et donc, on est, une fois de plus, au cœur de l'actualité. Oui. Voilà.
Alors, je le dis. Un peu patrimonial. Mais
bon. Patrimonial, je crois pas. Moi, je dirais pas ça. Je dirais pas ça. Pourquoi ? Parce que, elle avait beaucoup publié, Simone Veil, comme tu l'as dit. En fait, c'est une vie un peu concentrée.
Elle a peu publié, je crois. Elle a beaucoup écrit. Je crois qu'elle a peu publié.
Elle a peu publié. Elle naît en.
Elle a rien publié, même.
Elle naît en 1909.
Parce qu'elle a La pesanteur et la grâce, qui est un de ses ouvrages les plus connus.
Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait,
j'aime bien te couper la parole.
Sur sa courte vie, puisqu'en fait, elle naît en 1909 et elle meurt en 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, sur cette période courte, elle a, d'une certaine manière, vécu, tu l'as dit tout à l'heure, certainement plus intensément que la plupart de ses collègues intellectuels, et aussi très certainement que la plupart des gens. Voilà, c'était ça l'idée. Dans la mesure où, comme tu l'as dit, en fait, elle fait une scolarité ultra brillante, normale supérieure, économie supérieure, et classe préparatoire, etc., etc. Ensuite, elle enseigne pendant 2-3 ans, mais d'emblée, en fait, elle fait le choix, elle, d'avoir une réflexion intellectuelle qui est axée sur un engagement direct et concret de sa part, c'est-à-dire qu'elle s'engage du côté du syndicalisme révolutionnaire. Elle s'intéresse à tous les courants marxistes anti-staliniens qui existent à l'époque. Elle a commencé à rédiger des articles pour la revue L'École émancipée dans l'entre-deux-guerres, qui regroupait en fait tous les mouvements révolutionnaires et tous les militants révolutionnaires non communistes d'une certaine manière. Donc les anarcho-syndicalistes, les syndicalistes révolutionnaires, les militants libertaires de toutes obédiences et aussi les militants d'ultra-gauche investis dans le syndicalisme. En 1934, elle s'établit, comme tu le dis, donc chez Alstom notamment, chez Renault aussi, à Boulogne-Billancourt. Vous faites le calcul. Hein. En 34, elle a 25 ans. Elle a déjà sa formation à Normale supérieure. Elle a déjà enseigné. Elle a déjà participé à des mouvements de grève sur son lieu d'enseignement. En 34, elle s'établit donc à l'usine. Bien avant donc
Linhart
et les glorieux maoïstes des années 70, 40 ans avant, pour dire les choses.
Voilà. Ce qui est curieux quand on compare les textes, c'est leur proximité, en fait.
C'est leur proximité, oui. Et bah, alors, une adaptation aussi au milieu professionnel de l'usine. Hein, et voilà. Donc, en 34, elle s'établit. Elle commence effectivement à décrire la vie en usine. Alors, on est à l'époque, la grande époque, je dirais, de l'industrie et de la figure de l'ouvrier d'industrie en France, donc la métallurgie, l'automobile notamment, mais pas seulement. Donc elle décrit ça dans les journaux de manière très descriptive, c'est le cas de le dire, phénoménologique. Alors elle a toujours effectivement, comme tu l'as dit, un regard qui est souvent un regard moral en fait sur le. Alors moral au sens très large, c'est pas dire c'est bien, c'est pas bien, mais en fait elle s'intéresse à l'expérience concrète vécue, je dirais, de la vie ouvrière et de la vie en usine. C'est ça évidemment qui est primordial pour elle. En 36, elle va participer donc à la grève générale qui se déclenche à la suite de l'arrivée du Front populaire au gouvernement. Et les textes qui sont proposés là, qui sont regroupés et présentés par Jacquier, dont tu as parlé, en fait racontent ça. Alors, ils racontent la vie en usine. Avec des choses qui sont assez simples, je dirais. En fait, c'est l'image du point de vue de l'écriture. En fait, on est un peu sur l'équivalent de la ligne claire en bande dessinée, quoi. C'est-à-dire quelque chose qui est extrêmement extrêmement sobre, extrêmement direct, extrêmement concret, qui cherche absolument pas les effets rhétoriques ni la spéculation à outrance, pas du tout. C'est pas du tout ça. Alors ça peut avoir ça peut être surprenant parce que vu sa trajectoire, hein, bon, après on enchaîne, après le Front populaire, en fait elle part en Espagne, elle s'engage dans les brigades internationales, plus exactement dans la colonne de Routy quand même. Elle y passe plusieurs semaines, elle revient dégoûtée de ce qu'elle y elle se blesse sur place, elle rentre et en fait elle a, alors évidemment pour terminer, en fait elle rentre en France, elle va participer à la résistance en France, puis après elle part à Londres, elle rejoint l'entourage de De Gaulle, elle en est dégoûtée également et elle continue et là elle a effectivement une révélation d'ordre mystique, hein. Alors elle est dans une famille d'origine juive, mais complètement sécularisée et laïque, et en fait elle a se fait pas baptiser, elle se convertit pas au christianisme, mais elle est, ses derniers textes effectivement insistent beaucoup là-dessus, sur l'aspect mystique du christianisme, et elle meurt à 43 ans, à 34 ans, en 43, elle meurt d'une pneumonie, ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait beaucoup, 34
ans. Sachant qu'elle s'est à moitié privée de nourriture parce qu'elle refusait de.
Il y a la question de savoir.
Elle refusait de manger. Elle refusait de manger comme pouvaient manger les Anglais. Ouais. Elle voulait manger comme étaient censés manger les Français. C'est ce que j'avais entendu dire.
Alors c'est vrai que quand tu as une trajectoire de vie, effectivement, c'est un côté à la fois
impressionnant.
Météorique. Oui, il y a un côté très météorique. C'est ça. Alors effectivement, elle publie peu de son vivant. Donc il y a tous ces témoignages sur la vie en usine, bien sûr, qui vont être publiés en fait après la guerre, surtout, et qui vont être. Par contre, en fait, ce qui est aussi impressionnant, finalement, c'est les témoignages de tous les gens qu'elle a pu croiser de son vivant, de sa courte vie, et qui, alors, convergent tous vers l'idée que qu'elle était très très impressionnante dans sa manière d'être, tout simplement, ou dans sa manière de parler, de s'engager, de s'engager, en fait. Alors, on n'est pas sur c'est pas des philosophes de l'engagement à la Sartre ou Simone de Beauvoir ou type existentialiste après la Seconde Guerre mondiale. Pour ceux qui voudraient être méchants, en fait, on pourrait dire que si on compare en fait l'engagement des uns et des autres, il y a un peu ceux qui parlent et puis ceux qui ont fait, en l'occurrence, hein, parce que elle en parle peu, elle le théorise pas, mais le mot qu'on puisse dire, c'est qu'elle a fait. Donc c'est effectivement assez, c'est un parcours qui est je ne sais pas si on peut dire atypique, mais c'est vrai ça ressemble à rien d'autre, quoi. Après, ça fait partie en fait des figures de cette période-là qui est extrêmement violente, extrêmement dure à plein d'égards. Alors, elle a rencontré Pierre Monnat, notamment. Alors, Pierre Monnat, qui était un des responsables et des animateurs du syndicalisme révolutionnaire dans l'entre-deux-guerres. Donc de tous ces militants syndicaux qui militaient pour une réunification de la CGT et qui se battaient contre en fait l'emprise du stalinisme sur la CGT française et qui se réclamaient de la CGT d'avant 14, une stratégie d'autogestion ouvrière donc très très marquée en fait par par la tradition libertaire. Donc elle est très proche de Monnat qui témoigne voilà, très impressionné, de Boris Souvarine aussi qui est aussi un communiste lui un communiste anti-stalinien
qui a écrit une très belle biographie de Staline
qui est très très impressionnante et qui lui-même se disait très impressionné par les écrits de Simone Veil. À la croisée, Simone de Beauvoir, étudiante, qui elle-même était assez fascinée par l'autre Simone, c'est-à-dire Simone Veil. Et en fait, elle a été en fait, reconnue après sa mort par ceux qui vont tenir le haut du pavé après la libération et après la guerre. Donc Camus, Hannah Arendt, etc., tous ces gens-là. Mais en fait, ça a été tellement concentré, en fait, ses engagements. Tout ce qu'elle écrit est en lien avec ce qu'elle fait, avec ce qu'elle vit. Il n'y a pas tellement d'équivalent à ma connaissance. Alors aujourd'hui, elle est classée plutôt du côté, effectivement, des philosophes humanistes. En fait, les étiquettes collent mal. On parle parfois d'anarchisme chrétien aussi. Mais en fait, c'est toute sa partie des textes qui concernent les événements politiques et son engagement politique sont peu marqués ou pas directement marqués, en tout cas par le christianisme ou la religion, même si évidemment on est sur un registre qui est moral, qui est celui de la recherche d'une vérité qui serait vécue, incarnée, etc. Donc c'est des thématiques qui tendent
beaucoup de questionnements sur le mal.
Bien sûr, effectivement. Avec des petites. Donc voilà, il y a des. Alors il y a un texte sur l'enracinement, qui s'appelle L'enracinement, qui est publié après-guerre. Un autre qui s'appelle La condition ouvrière, qui reprend ses journaux d'usine, qui est publié également après-guerre. Un tout petit opuscule qui est assez inclassable aussi. Hein, c'est les réflexions sur les conditions de la liberté et de l'oppression sociale.
Il y a des réflexions sur le pouvoir,
sur l'abolition l'abolition de tous les partis politiques. Après, à la lecture, effectivement, il y a une approche qui est, c'est toujours assez à la fois déroutant parce que il y a des choses qui semblent d'une trivialité en fait, un peu à laquelle on n'est pas habitué, et en même temps, quand on met toutes les pièces bout à bout et quand on les connecte en fait à ce qu'elle a fait. Ça mérite effectivement quand même plus qu'attention, parce que c'est voilà, alors on pense à des gens effectivement comme Orwell, voilà, c'est qui est un petit peu sur ce registre-là, mais d'une certaine manière, elle est beaucoup plus engagée et de manière bien plus conséquente qu'Orwell. Mais Orwell, il met du temps à sortir effectivement de son éducation, etc. Mais c'est une trajectoire un peu comparable. C'est-à-dire qu'effectivement Orwell, il va ça va être dans la dèche à Paris, il fait les asiles de nuit de toutes les capitales européennes.
Il fait l'Espagne.
Donc effectivement, il y a des, mais en tout cas sur le rapport.
Et c'est une écriture qui investit dans son existence.
Exactement.
Aussi.
Donc il y a des points de comparaison. Voilà, des points de comparaison. Il survit pas non plus à la Seconde Guerre mondiale parce qu'il meurt juste après. Donc il y a des points. Voilà, il y a le côté météorique qui est un peu
mais bon, il vit quand même plus vieux, il meurt, il a la cinquantaine.
Il vit plus vieux, il est moins prophétique, on va dire, peut-être hein, dans sa manière de faire. Alors bon, c'est pas une critique ni un compliment d'ailleurs, c'est un constat. Alors ces petits textes en fait, ils échappent pas à ça, c'est vrai que moi j'ai lu ça. Alors bon, en fait, on a le sentiment de pas apprendre grand-chose. Quand on les lit, et puis en fait après la question c'est de savoir en fait à quel degré on prend ça au sérieux, et en fait toute sa vie témoigne dans le sens d'une interprétation où il faut prendre ça très au sérieux en réalité, et vu comme ça, eh bien alors c'est des articles hein, donc c'est des analyses assez rapides, mais alors les quatre textes, donc le premier décrit un peu, c'est une espèce de condensé hein, de ces descriptions de vie d'usine et de ce que ça fait en fait, aux ouvriers et aux ouvrières, de déclencher un mouvement de grève qui se généralise suite au Front populaire. Qu'est-ce que ça leur fait ? Voilà, comment ça marche et qu'est-ce que ça leur fait ? Le deuxième texte, en fait, c'est sur le bilan de cette grève-là. Alors, il n'est pas publié, mais c'est un bilan. Alors, effectivement, bon, pour ceux qui sont un peu familiers des mouvements et des luttes syndicales, on s'y retrouve complètement. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a l'illusion, c'est pas une illusion, mais en fait, le sentiment d'avoir gagné et en même temps d'avoir une victoire qui est d'une fragilité absolue et qui peut se disperser, comme une poignée de sable, en quelques temps. Et puis après, il y a deux textes sur le backlash, je dirais. La fin du mouvement, donc octobre, la reprise en main par le gouvernement du Front Populaire, donc le discours de Salengro, et puis par la direction de la CGT. Alors ça c'est pareil, c'est des choses avec lesquelles les camarades syndicalistes sont plus que familiers. Et ben en fait elle le dit, voilà, elle le dit, elle l'écrit noir sur blanc sur un mouvement qui est en fait historiquement très important, parce que ce que je pense qu'il faut quand même mesurer, c'est qu'en fait ce mouvement de grève générale, révolution manquée, dit Daniel Guérin, mais alors c'est ce qu'elle, je sais pas si on peut parler d'une Elle a une aspiration révolutionnaire, Simone Veil. Elle est partisane d'un pouvoir ouvrier généralisé, d'une réappropriation des usines. C'est pas une théoricienne du tout. Elle le veut pas l'être. Voilà. Donc, elle a effectivement cette aspiration révolutionnaire-là, mais elle se situe pas comme une militante. Elle a jamais adhéré ni à aucun parti, ni à aucune organisation syndicale censée définir une stratégie, un programme ou ce genre de choses. Elle est pas du tout sur ce registre-là. Mais ce qui est important, c'est que, il me semble, révolution manquée, je sais pas si elle dirait ça, mais en tout cas, quand on regarde en fait ce mouvement du Front Populaire, en fait il y a une continuité il amorce quelque chose dont on n'est pas vraiment sorti, dont il se pourrait que malheureusement on sorte ou qu'on risque de sortir, parce que les acquis fragile, limité, décevant du Front Populaire, ils ont nourri ensuite le programme du Conseil National de la Résistance. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien voir la chronologie, c'est devenu une espèce de mythe, en fait, le juin 36, le Front Populaire. Mais du point de vue historique, en fait, il faut voir que ce mouvement est extrêmement puissant, c'est un mouvement de grève générale ouvrière. 68, quantitativement, on est sur quelque chose d'un peu plus large, mais le caractère ouvrier, l'invention des occupations d'usines, c'est 36. Et la grande peur de la bourgeoisie, le risque ultime, c'est 36. C'est 36. Et en fait, le patronat s'y trompe pas. Et l'État s'y trompe pas non plus. C'est-à-dire qu'il y a une reprise en main après, lorsque le mouvement de grève va s'effriter au cours de l'été. Il va y avoir une reprise en main d'abord du gouvernement du Front Populaire, alors qu'il fait son taf, qu'il le fait pas. Bon, voilà, on peut épiloguer 1000 ans sur les sociotraites et les socioréformistes, etc. Mais en fait, qu'il fait son taf, voilà. Qui va éteindre l'incendie. Voilà, avec l'aide des directions syndicales, comme ça se passe pratiquement tout le temps, voilà. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, après, c'est derrière, c'est après la chute du Front Populaire, vous avez les radicaux qui arrivent au pouvoir en 38, et vous avez un échec d'une grève générale en 38, un échec total, avec un lock-out massif du patronat, qui est préparé, qui a le soutien du gouvernement, cette fois-ci, et qui va, en fait, diviser les effectifs de la CGT par 3. Juste avant la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, il y a les défaites et la catastrophe que Simone Veil pressent et dont elle essaye de prévenir dans ces textes-là, elle a eu lieu historiquement. Mais ça n'a pas suffi à éteindre en fait le projet et l'espèce d'effet de souffle en fait de 36, puisqu'après, effectivement, pendant la Seconde Guerre mondiale, toutes les aspirations, les projets avortés, pas toutes, mais une bonne partie, vont être repris dans le programme du CNR, qui est en fait intégré à la Constitution, à la législation française, le droit du travail, le droit de grève, les congés payés et l'ensemble des droits sociaux qui résistent depuis 90 ans. 90 ans, c'est pas rien, c'est pas rien. C'est sur une période historique. Au fond, c'est quand même tout ça qui est attaqué, grignoté, sapé de l'intérieur. Et alors sapé, évidemment, alors pour plein d'autres raisons, le contexte n'est plus du tout le même. Mais au fond, du point de vue moral, qui est celui que Simone Veil adopte, en réalité, il n'est pas sûr qu'il y ait grand-chose de changé. Voilà. Alors, évidemment, du point de vue sociologique, du point de vue matériel, économique et tout ça, on pourrait dire, mais du point de vue moral, en fait, ce qu'elle décrit, les ressources qu'elle identifie, ce qui l'impressionne, ce qui l'effraie, les dangers, en fait, qu'elle perçoit, d'une certaine manière, on est sur du copier-coller. On est sur du copier-coller et on est simplement 90 ans plus tard. Voilà. Mais toujours, finalement, dans cette séquence-là, me semble-t-il, d'un certain point de vue. Donc, d'où l'intérêt de relire ces trois textes-là, ces quatre textes de le petit recueil Grève et joie pure de Simone Veil.
Donc, on va faire une petite pause après cette présentation générale fort informée. Et on se retrouve après.
fait pas tellement d'œil. When our heads, when I sweat, the machines start to die. We walk out on the line with the lead and it's back on us. The wedge game was involved, the only dance we're hot to have. That's it, good, big, I came about. When these bosses make a sweat, the fever can be shining instead. When you see them with your legend, talk about sheer devotion. When we ask for more holiday, they all have us extra money. From now on we follow the sun and swallow the stars of night. We have done for passion, see to run, fly high. We stay up for weeks still, and they're not too easy work. But we can find a stamina, and we are breaking up the house.
Radio Libertaire 89.4, la radio 108 mm, une publicité. Et c'est Jeudi Noir qui se poursuit entre, entre diverses activités condamnables. Et donc, Jean-Mathias, ce soir, nous parle de Simone Veil, enfin d'un écrit de Simone Veil, la philosophe morte dans les années 40. Et donc, un recueil de quatre textes qui s'intitule Grève et joie pure. Et donc, dans la première partie, il nous a présenté un petit peu la vie et la trajectoire étonnante et éminemment respectable de Simone Veil. Et là, il nous parlait un petit peu de situer ses textes par rapport à 36 et pourquoi est-ce que 36 n'appartient justement pas qu'au patrimoine, que c'est quelque chose qui, en quelque sorte, est encore présent. Puisque tu nous disais juste avant la pause que les textes de Simone Veil on mentionne des dangers, des espoirs et une situation qui finalement sont pas si différentes de la nôtre actuellement. Donc ben, j'imagine que tu vas te faire une joie de développer tout ça maintenant.
Oui, ben, on peut en parler après. Mais je crois que c'est important quand même de mesurer ça. Parce qu'effectivement, une lecture... On est plus habitué, je crois, maintenant à lire des textes soit qui théorisent beaucoup, soit qui polémiquent beaucoup, ce qui est tout à fait légitime. Alors elle théorise rien et elle polémique contre personne. En fait, elle décrit. Elle prophétise un peu. Oui, effectivement, ça. Et à l'issue de sa trajectoire, mais c'est un style, en fait, qui est tout à fait différent, en fait, de ce qu'on a été habitué ensuite à lire. Alors, beaucoup moins théoricien, beaucoup moins abstrait que toute la tradition marxiste, évidemment. Elle n'est pas là-dedans, hein, là-dessus. Alors, elle n'est pas là-dedans, mais c'est quelque chose, c'est par choix. C'est-à-dire qu'en fait, elle est dans une tradition qui est très particulière, mais à laquelle on est assez attaché dans l'émission, qui est celle du syndicalisme révolutionnaire ou de l'anarcho-syndicalisme, les deux étant parfois assez difficiles à dissocier, qui a aussi ses théoriciens, Sorel, Édouard Berthe, notamment qui la connaît, qui connaît très bien ses textes aussi, Pouget, bien sûr, mais qui sont toujours effectivement liés
Voilà, c'est une philosophie de l'action directe. Voilà. Et l'action directe, ça suppose d'abord d'agir d'une certaine manière, ou en tout cas, ça suppose d'agir, et d'agir de manière directe. Voilà. Donc, sur site, avec des gens, avec des affects, avec des effets, avec des risques aussi, qui ne sont pas ceux qu'on va prendre dans une bibliothèque ou dans un colloque voilà, du parti. Bon, alors, il n'y a pas de recette magique, mais du point de vue moral, c'est vrai que ça quelque chose qui a sa valeur. Voilà, on ne peut pas... Bon, juste sur l'aspect théorique, le montrer qu'elle n'est pas complètement perdue, hein, sur ces choses-là. Alors, c'est cité par Jacquet, du coup, dans son intro, là. Mais une petite remarque, c'est très simple. C'est montrer la différence d'approche du point de vue des concepts qui vont être mobilisés par les uns et par les autres. Donc sur la notion de force, évidemment, alors la force sociale, les rapports de force, les conflits de force, etc. Voilà, la lutte des classes, ce genre de choses, évidemment. Ce concept de force, il a une lecture une interprétation très mécaniste dans le marxisme traditionnel, voilà. Simple remarque comme ça, elle dit, mais le problème, c'est qu'en fait, lorsqu'on a affaire à des... On ne peut pas confondre en fait le type de force qu'on va observer dans la physique avec celui qu'on va observer à l'intérieur des conflits sociaux. Pourquoi ? Parce que la nature résiste, mais elle ne se défend pas. Voilà. C'est pas la même chose. Voilà. C'est des forces qui ne sont pas de même nature, tout simplement. Des rapports sociaux, elle affirme, conserver la puissance, c'est pour les puissants une nécessité vitale, puisque c'est leur puissance qui les nourrit. Or, ils ont à la conserver à la fois contre leurs rivaux et contre leurs inférieurs, lesquels ne peuvent pas ne pas chercher à se débarrasser de maîtres dangereux. Car par un cercle sans issue, le maître est redoutable à l'esclave, du fait même qu'il le redoute, et réciproquement. Alors, c'est des choses simples, hein. C'est des choses simples, mais qui, en fait, proposent des aiguillages qui ont des conséquences, en fait. C'est-à-dire que, de ce point de vue-là, ça devient important, du coup, de comprendre ce que ça fait, en fait. De céder, de renoncer, de se résigner en usine, de répéter, de se vider de son énergie, de se vider en fait de sa capacité à choisir, de sa liberté, ça devient important, ça devient même crucial en fait de savoir ce que ça fait et de savoir pourquoi et dans quelles circonstances la grève notamment va permettre effectivement de quelle joie ça suscite. Évidemment que ça devient crucial. C'est pas simplement de la psychologie ou c'est pas simplement de la cosmétique. C'est que en fait c'est de ça dont il s'agit. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Alors, bien sûr, c'est des choses qui supposent aussi de l'organisation, de la transmission, un héritage, de trouver les bons mots, du calcul, bien entendu, tout ça intervient là-dedans. Mais la matière sur laquelle on travaille, en fait, la matière sociale, celle qui est à l'œuvre, effectivement, dans ces conflits, dans les rapports, dès qu'il est question de domination, et le capitalisme, c'est de la domination, ça ne peut pas être autre chose que ça, mais c'est une domination qui n'est pas... elle est matérielle, oui, mais elle n'est pas matériel au sens où ce serait physique, en quelque sorte, ou uniquement physique. Et cet aiguillage-là, en fait, d'une certaine manière, il est important de ne pas l'oublier aussi, je pense. C'est-à-dire que les conséquences qu'on tire de ça ne sont pas du tout les mêmes que lorsqu'on a une approche extérieure où on va mesurer le rapport de masse quantitativement, du calcul, des bascules électorales, du nombre de bassins concernés, du taux horaire, etc. Des questions qu'elle néglige pas du tout. Hein, voilà. Alors, les expériences, alors c'est pareil, ce sont des choses simples, mais qui sont importantes, parce que c'est de ça dont il s'agit. En 36, les enjeux, alors il n'y a pas de convention collective en 36. Il n'y a pas de convention collective. C'est-à-dire que, en fait, le régime du salariat qui existe dans l'industrie, c'est le salaire à la pièce. Voilà. Salaire à la pièce, c'est-à-dire tu produis tant, en fait, et puis tu seras payé tant, en fonction de ce que tu as produit. Voilà, tu as produit moins, tu touches moins. Voilà, tu n'as produit pas assez, tu dégages. Voilà. Tu as produit plus, tu gagneras un peu plus. Voilà. C'est ça le principe. Donc alors aujourd'hui c'est mon salaire à la pièce, ça fait un petit peu exotique effectivement quand on y parle, mais voilà la prime d'intéressement, la prime au résultat, la prime sur projet, la prime en fait, et tout ça sont t'as pas fait les heures du pacte dans ces heures, tu ne touches pas. Il est en où du projet sur lequel tu touches pas. Voilà. Donc le concept de salaire à la pièce, il n'a pas bougé, en fait. Évidemment que c'est le rêve du patronat, encore une fois, pas parce qu'il est méchant. Et il faut bien voir le monde dans lequel on est, effectivement, le monde social dans lequel on est, là où c'est le salaire à la pièce. Là, une des grandes revendications qu'elle met en avant, effectivement, et à juste titre, en 36, c'est un salaire minimum garanti. C'est un salaire de base, oui, salaire horaire, bien entendu. Voilà. Pourquoi ? Bah parce que en fait, c'est ce qui permet de reprendre un contrôle ouvrier, de poser un cran d'arrêt sur les cadences. Voilà. C'est important les cadences. En fait, c'est de ça dont on parle. En fait, c'est de ça. C'est très exactement de ça dont on parle. C'est combien de fois on va lever le bras dans une heure ? Combien de fois on va devoir lever le bras pour pouvoir manger ? Voilà. Combien de fois on va devoir lever le bras, voilà, combien de fois, et qui va contrôler ça, et quel pouvoir de contrainte va avoir celui qui contrôle ça, voilà. Alors, c'est en ça que c'est pas romantique, en fait, comme manière de voir les choses. C'est pas romantique, c'est pas si illuminé que ça non plus, en réalité.
Ça recoupe pas mal. Un bouquin qui avait été publié chez Agone, d'un gars qui se faisait prénommer Durand, Grain de sable sous le capot.
Oui, bien sûr.
20 ans, journal d'un ouvrier chez Peugeot pendant 20 ans, où justement toutes ces thématiques-là que tu avances sont présentées, et pareil, en quelque sorte, mais à ras de la chaîne. Genre, qu'est-ce qui se passe quand on fait grève ? C'est quoi le plaisir qu'on a à mettre un coup de tournevis dans une bagnole en passant ? C'est quoi le plaisir à tous se regrouper et puis aller chercher les autres ouvriers afin de les faire débrayer ? Et aussi la rage que peut donner le fait d'être enfermé dans un lieu bruyant où finalement on n'a plus tout le contrôle de sa vie et de son corps. Donc c'est pas... Effectivement, c'est marrant, les résonances... Pareil, les résonances avec le texte de Linhart sont marquantes. Du fait du décalage historique. Années 40, années 70, le bouquin de Durand, ça va jusqu'aux années 90, je crois. En fait, tu as l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais une base continue quand même.
Un plan à décrire qui reste le même. En fait, c'est la matière humaine, ouais. On peut dire ça comme ça, mais effectivement, la matière vécue aussi.
Ouais. Et puis la violence de l'exploitation en usine.
Oui, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais pour vous donner une idée du style, encore une fois, alors qui est peut-être frustrant hein, pour ceux qui ont des appétits spéculatifs ou qui sont précipités ou qui pensent pouvoir contrôler des situations ou les transformer par des concepts, on va dire. Donc page 24, là, on est dans la partie descriptive, donc c'est le style qu'on va retrouver dans la condition ouvrière. Voilà, le lendemain, elle s'est établie en usine, on ne parle pas, c'est pas le terme utilisé encore à l'époque, mais c'est ce qu'elle fait. Le lendemain, on veut bien me laisser me remettre à ma machine, quoique je n'ai pas fait la veille les 800 pièces exigées. Mais il va falloir les faire ce matin, plus vite. Voilà le contre-remettre, qu'est-ce qu'il va me dire ? Arrêtez, j'arrête. Qu'est-ce qu'on me veut ? Me renvoyer ? J'attends un ordre. Au lieu d'un ordre, il vient d'une sèche réprimande, toujours sur le même ton bref. Dès qu'on vous dit d'arrêter, il faut être debout pour aller sur une autre machine. On dort pas ici. Que faire ? Me taire. Obéir immédiatement. Aller immédiatement à la machine qu'on me désigne. Exécuter docilement les gestes qu'on m'indique. Pas un mouvement d'impatience. Tout mouvement d'impatience se traduit par de la lenteur ou de la maladresse. L'irritation, c'est bon pour ceux qui commandent. C'est défendu à ceux qui obéissent. Une pièce. Encore une pièce. Est-ce que j'en fais assez ? Vite. Voilà que j'ai failli louper une pièce. Attention, voilà que je ralentis. Vite, plus vite. Alors, c'est pas le capital. On n'est pas dans le mise en équation de la surproduction ou de la survaleur, etc. Les autres thèmes en fait qui sont là en permanence, c'est quoi ? C'est la faim. Voilà, la faim, le risque de la faim. La faim qui monte quand on a été renvoyé et qu'on cherche à être réembauché. La fatigue, bien sûr. La peur, hein, je continue toujours. Rares sont les moments de la journée où le cœur n'est pas un peu comprimé par une angoisse quelconque. Le matin, l'angoisse de la journée à traverser. Dans les rames de métro qui mènent à Billancourt vers 6h30 du matin, on voit la plupart des visages contractés par cette angoisse. Si on n'est pas en avance, la peur de la pendule de pointage. Au travail, la peur de ne pas aller assez vite, pour tous ceux qui ont du mal à y arriver. La peur de louper des pièces en forçant sur la cadence, parce que la vitesse produit une espèce d'ivresse qui annule l'attention. La peur de tous les menus accidents qui peuvent amener des loupés ou un outil cassé. D'une manière générale, la peur des engueulades. On s'exposerait à bien des souffrances rien que pour éviter une engueulade. La moindre réprimande est une dure humiliation parce qu'on n'ose pas répondre. Et combien de choses peuvent amener une réprimande, etc. Ce type, voilà, de situation. Ça, c'est la condition concrète. Alors, ça apparaissait aussi dans les autres textes que tu mentionnais. Mais il me semble qu'il y a aussi un exercice chez elle, en fait, d'essayer de débrancher tout ce qui pourrait anesthésier ce genre d'expérience-là, du fait de sa formation, du fait de sa culture, du fait des concepts qu'elle connaît, qu'elle maîtrise, du fait de tout ce qu'elle sait, d'une certaine manière. Tu sens que tu as un effort constant chez elle pour, surtout ne pas se payer de mots ou ne pas, passer de baume théorique ou spéculatif sur l'expérience directe, encore une fois, de ce qui se passe. C'est pas inintéressant, je trouve, aussi, comme démarche. Voilà. Alors, ça en donne un côté, du point de vue qui peut paraître plat, du point de vue de ceux qui sont formés à être intellectuels et du point de vue intellectualiste qui est transmis par une formation de ce genre. Mais là, on sent que, il y a cet effort et je trouve qu'il est plutôt réussi de ce point de vue-là. Alors ça, c'est la réalité du quotidien, c'est business as usual. Voilà. Alors la grève, bien évidemment, donc celle de 36, pas n'importe laquelle, c'est pas une grève locale, c'est une grève qui va faire tache d'huile, donc qui commence dans la métallurgie et qui va s'étendre à l'ensemble du secteur privé en 36. Donc évidemment, c'est une expérience pour le coup presque scientifique en ce sens-là, du point de vue de... C'est une connaissance de ce que produit en fait ce type de situation et ce type de changement de paramètres sur ce que ça fait. Voilà. D'être un ouvrier en grève, il y a une espèce de changement d'état, on pourrait dire. Et c'est là, évidemment, du coup, que ce terme de joie, effectivement, est mis en avant. Pas une joie théorique, pas inspirée par tel ou tel auteur ou tel philosophe. Elle est plus immédiate. Alors, de manière assez... Alors, c'est pareil, on peut en discuter longtemps de ça. On peut lire ça comme des espèces de formulations un peu spontanéistes, en fait, puisque vu qu'elle prend soin, en fait, de mettre de côté toutes les formes de capitaux militants, intellectuels, politiques qui permettent de nommer les choses, de les décrire d'un point de vue légitime, qu'on soit patron ou qu'on soit d'ailleurs militant. Elle essaye de mettre ça de côté. Donc, alors évidemment, qu'est-ce qui reste ? Il reste une espèce d'expérience immédiate, directe, de celui qui n'est pas militant, qui n'y connaît rien, qui n'a pas lu Marx, qui n'est pas engagé dans telle ou telle tendance, qui n'a pas tel ou tel projet, qui n'a pas de plan B. Certaine manière. Alors elle formule ça comme ça, page 35. Dès qu'on a senti la pression s'affaiblir, immédiatement, les souffrances, les humiliations, les rancœurs, les amertumes, silencieusement amassées pendant des années, ont constitué une force suffisante pour desserrer l'étreinte. C'est toute l'histoire de la grève. Il n'y a rien d'autre. Alors, un historien, il dira, il y a plein d'autres choses. Un syndicaliste, il dira, oui, il y a plein d'autres choses. Un militant politique, il dira, mais si, il y a plein d'autres choses. Voilà, Trotsky explique dans l'introduction que là, on est arrivé à tel degré, à tel stade, etc. Évidemment, elle force le trait. Mais il me semble qu'il faut ça peut se comprendre du point de vue du projet qu'on discerne chez elle. Le fait de surtout ne pas faire en sorte que des mots appris à l'école de la bourgeoisie ou dans une famille bourgeoise ou que ce soit d'une certaine manière viennent expliquer aux gens ce qu'ils sont en train de vivre. Faire en sorte que surtout ça ne se produise pas. Et donc essayer de coller au plus près de ce qui se passe quand on n'a pas ces mots-là, d'une certaine manière. Comment ça s'est passé ? Elle continue. Bien simplement, dit-elle. L'unité syndicale n'a pas constitué un facteur décisif, dit-elle. Bien sûr, c'est un gros atout. Mais qui joue dans d'autres corporations beaucoup plus que pour les métallos de la région parisienne, parmi lesquels on ne comptait il y a un an que quelques milliers de syndiqués. Facteur décisif, il faut le dire, c'est le gouvernement du Front Populaire, quand même. D'abord, on peut enfin, je souligne deux fois, faire une grève sans police, sans garde mobile. Mais ça joue pour toutes les corporations. Ce qui compte surtout, c'est que les usines de mécanique travaillent presque toutes pour l'État et dépendent de lui pour boucler le budget. Cela, chaque ouvrier le sait. Chaque ouvrier, en voyant arriver au pouvoir le Parti Socialiste, a eu le sentiment que devant le patron, il n'était plus le plus faible. La réaction a été immédiate, dit-elle. Donc on voit bien qu'en fait, elle commence par poser effectivement une espèce d'expérience spontanée, et voilà, la réaction spontanée, elle n'est pas débile. Elle a une vue d'ensemble, mais toujours commencer par ce qui est là immédiatement. Alors la joie pure, puisque c'est le titre, grève et joie pure, il faut bien un titre, ça claque, allons-y. Alors, En premier, donc, elle continue hein, sur son analyse, voilà, qui est tout sauf théoricienne, en tout cas. Alors, bien sûr, il est réconfortant de constater que les ouvriers aiment encore mieux faire leurs propres affaires que de les confier au gouvernement. C'est ce qui se passe en 1936, il ne faut jamais oublier ça. Il y a effectivement un gouvernement élu, mais ce n'est pas le gouvernement qui déclenche la grève. Pas du tout, voilà. Le gouvernement, il va se retrouver effectivement avec un moteur de Formule 1, mais en fait, il est plutôt, lui, câblé pour conduire une deux chevaux, en fait. C'est ça le programme, en fait, au départ. Donc, il va falloir voilà, adapter. Donc, alors, bien sûr, oui, il y a ça, que ce sont les ouvriers qui, eux-mêmes, déclenchent cette grève, mais ce n'est pas, je crois, cet état d'esprit qui a déterminé la grève, elle continue. Donc, non, en premier lieu, on n'a pas eu la force d'attendre. Tous ceux qui ont souffert savent que lorsqu'on croit qu'on va être délivré d'une souffrance trop longue et trop dure, les derniers jours d'attente sont intolérables. Mais le facteur essentiel est ailleurs. Le public et les patrons, et Léon Blum lui-même, et tous ceux qui sont étrangers à cette vie d'esclave, sont incapables de comprendre ce qui a été décisif dans cette affaire. C'est que dans ce mouvement, il s'agit de bien autre chose que de telle ou telle revendication particulière, si importante soit-elle. Si le gouvernement avait pu obtenir pleine et entière satisfaction par de simples pourparlers, on aurait été bien moins contents. Il s'agit, après avoir toujours plié, tout subi, tout encaissé en silence pendant des mois et des années, d'oser enfin se redresser, se tenir debout, prendre la parole à son tour, se sentir des hommes pendant quelques jours, indépendamment des revendications. Cette grève est en elle-même une joie pure, une joie sans mélange. Alors ça c'est pareil, le rapport aux revendications à la plateforme. Bon. Pour tous ceux effectivement connus un mouvement social, c'était des débats qui n'ont pas évidemment pris une ride. Peut être très énervant quand on est un militant syndical de voir la légèreté avec lesquelles les camarades traitent la formulation des revendications et de la plateforme qui va permettre à nos glorieux redélégués de les négocier auprès de l'employeur. Bon. Voilà, c'est pas. On peut discuter de ça. Voilà, est-ce qu'il pourrait y avoir une joie pure sans plateforme? Je ne sais pas. C'est une question. Maintenant, évidemment, le choix qui est pris en fait par elle, il se défend au vu de ce que j'ai dit là et au vu de ce qui se dégage en fait de ces textes-là. C'est de dire que voilà, si on essaye de mettre de côté tout l'aspect interprétatif, voilà, politique, militant ou idéologique des uns et des autres, mais au fond, le moteur, c'est ça. Voilà. Et c'est pas simplement le moteur, c'est voilà, la réalité de ce qui se passe, c'est ça. Bon. Donc voilà pour le titre. Hein. Voilà pour le titre. Et pour terminer juste sur ce premier article, l'objectif, en fait, il doit se dégager, mais pas par en haut, pas par un programme, pas voilà. En fait, d'une certaine manière, il est en continuité avec ça. Cette joie pure, c'est quoi? C'est le fait que les ouvriers sont chez eux, ils occupent. Voilà. Donc oui, il y a un aspect tactique. En fait, c'est pas les syndicats qui ont décidé d'occuper, c'est les ouvriers qui ont décidé d'occuper. Avec leur syndicat. Et le fait d'occuper une usine, c'est-à-dire d'être chez soi, alors qu'on était chez le patron, ben, en fait, logiquement, derrière, c'est pareil. On n'a pas besoin d'avoir lu grande théorie pour comprendre que finalement, l'horizon de ce mouvement-là, son horizon voilà, d'échappement, ben, c'est le pouvoir ouvrier. Voilà. Et on arrive, en fait, à cette conclusion-là sans avoir... sans être passé, en fait, ouais. Par des outils, par des instruments, par des déductions, par des règles, par une culture, par un niveau, en fait, théorique, ou un, voilà, qui est celui des formés, qui est celui des sachants, qui est celui des militants, qui est celui des... Et la puissance de cette joie-là, effectivement, c'est la pureté de cette joie-là, c'est qu'elle permet, finalement, d'une certaine manière, de formuler, oui, presque naturellement, je dirais, la perspective programmatique. Voilà.
Donc, après ce passage spontex sur la grève générale expropriatrice, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve après pour la troisième et dernière partie.
Ah oui, pourquoi?
Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et c'est donc Jeudi Noir qui reprend pour sa troisième et dernière partie. Suite à des plaintes véhémentes stéphanoises, nous vous indiquons que vous venez d'entendre un morceau des Aquatofana, c'est qui le patron ? Dans ce 2025, José toujours à la pointe. Et auparavant, vous aviez entendu The Brigade, donc Strive for Pleasure. Paris aussi, 89. Et évidemment, No Means No, le meilleur groupe du monde. Joy, 1995. C'est la meilleure année du monde pour la musique, je pense. Et donc, Jean-Mathias nous présentait un livre de Simone Veil, un recueil d'articles, Grève et Joie pure. Donc, Simone Veil, la philosophe française morte en Angleterre dans les années 40, pendant la guerre. Et tu nous avais présenté donc le premier article qui décrivait les grèves de 36. Alors, il nous reste quelques minutes. Tu veux présenter le deuxième, le troisième?
Ouais, en fait, l'enjeu des articles, parce que ça, ce que j'ai décrit, c'est un peu le corps du recueil, qui est très court, voilà, je vous recommande, parce que ça se lit très facilement, et puis c'est une très bonne intro, je trouve, et puis même une bonne approche de ça. Les autres articles, c'est quoi? Alors, c'est le deuxième, en fait, est un peu moins long, mais le choix est vraiment judicieux, parce qu'en fait, c'est des articles, le deuxième ne sera pas publié, et en fait, c'est une espèce d'analyse critique et assez pessimiste de ce qui est présenté partout, et pour de bonnes raisons, comme une victoire en fait de 36 et du mouvement de grève des métallos. Et en fait, pourquoi c'est intéressant? Parce que je trouve que si on s'en tient au premier texte, là, celui aux extraits que j'ai lus, évidemment les critiques en fait elles tombent un peu en rafale sur ce type d'approche, sur même le projet. C'est-à-dire que on a un peu l'impression de quelqu'un qui jouerait aux échecs et qui en fait passerait son temps à faire une espèce de description de ce qui se passe et de ce que les gens ressentent au moment de la partie, sans expliquer ou sans s'intéresser vraiment aux règles, sans voir l'enchaînement des coups tel que voilà mécaniquement ils s'appellent les uns les autres, et puis surtout sans définir en fait quel est le but de la partie, en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire que voilà, les plateformes, les programmes, les militants, les théories, les analyses, les mises en perspective historiques, sociologiques, économiques, etc., bon, elles tombent pas du ciel non plus. Elles sont là, évidemment, pour essayer de définir des objectifs, de définir des stratégies, de définir des crans d'arrêt. Bon, alors, évidemment, c'est la façon dont elle aborde la question, elle peut donner le sentiment qu'au fond, tout ça, on s'en fout, et ce qui compte, c'est de vivre les choses intensément, et que la grève, c'est un intensificateur, de la liberté populaire, on va dire comme ça, et que du coup en soi ça a la valeur, et que bon, bah évidemment c'est un peu court si on s'en tient là, parce que c'est pas complètement vrai. Et alors, ce qui est intéressant dans le choix des articles qui est fait sur la suite, c'est que c'est la manière dont elle va du coup analyser, toujours avec cette manière, la démarche qui lui est propre, c'est-à-dire en s'intéressant à ce que ça fait d'une certaine manière, elle analyse la victoire comme une pause, on va dire comme un armistice, voilà, on va dire ça comme ça. Mais du coup, ça remet effectivement des éléments d'analyse, ça. C'est-à-dire que, il y a des revendications qui ont été satisfaites. Oui, effectivement, le gouvernement et l'État ont joué leur rôle pour faire accepter aux patrons un certain nombre des revendications. Mais ce qu'elle mesure, elle, tout de suite... Bon, alors évidemment, c'est facile, une fois que tu connais la fin, de dire qui avait raison ou pas, alors elle peut se planter peut-être, bon. Mais ce qu'elle mesure tout de suite, c'est, oui, la fragilité de la chose, la fragilité de ses acquis, si, en fait, ils sont déconnectés de ce dont elle vient de parler. Voilà. C'est-à-dire de cette joie et de cet appétit, d'une certaine manière, là. Sans ça, en fait, les acquis du mouvement, en fait, sont voués à se dissiper comme une poignée de sable qui va nous glisser entre les doigts. Voilà. Et cela, ça devient intéressant, parce qu'en fait, elle comprend très bien aussi quels sont les enjeux, je dirais, matériels, concrets, juridiques, même économiques, en fait, de cette lutte-là. Elle le dit dans le deuxième article, qui est pas publié, parce que peut-être il est pas publié parce qu'il faut pas désespérer Billancourt, même quand on est syndicaliste révolutionnaire et qu'il faut pas et qu'on a gagné, et que c'est un acquis du monde ouvrier, les conquis sociaux, etc. Et en fait, il y a toujours cette espèce d'esprit de synthèse, je trouve, en fait, assez, qui se paye peu de mots. Donc, dans le deuxième article, extrait, voilà, les mots à combattre, au fond, ils sont faciles à définir, nous dit-elle. C'est le salaire aux pièces. On en parlait tout à l'heure. La cadence inhumaine du travail qui vide la vie d'un ouvrier jour après jour de tout ce qui pourrait lui donner une valeur. La subordination qui repose uniquement sur la terreur et la contrainte la plus brutale, sans qu'il soit jamais fait appel aux vertus de courage, de bon sens et de discipline que pourtant les ouvriers dans l'ensemble possèdent et exercent silencieusement tous les jours. Alors, pareil, bon, on reviendra là-dessus après. La puissance arbitraire et exorbitante des supérieurs immédiats, règleurs et chefs subalternes, à qui il ne faut pas déplaire, de qui il faut subir, le plus souvent, toutes les menues humiliations qu'ils peuvent avoir fantaisie d'infliger. La passivité, la succession machinale des gestes, l'absence complète de responsabilité ou d'initiative dans le travail. Bon, alors, c'est pareil, on pourrait dire, oui, bon, ok, bien gentil, c'est une espèce de psychologie, voilà, un peu à deux balles, tout le monde sait ça, voilà, au fond, est-ce que c'est ça qui compte? La question, c'est la plateforme, la revendication, combien, quand, etc. Voilà, recours, etc. Bon, mais en même temps, c'est bien ça l'enjeu. Donc, les enjeux, ils sont très clairs pour elle, voilà. Et elle ne les déconnecte pas de, justement, ce qu'elle cherche à restituer, d'une certaine manière. Donc, cette espèce d'expérience, voilà, directe. Je dirais, hein, comme il y a une action directe, voilà. L'obsession du rendement, hein, voilà, c'est le truc qui est central. Alors oui, il y a les conventions collectives qui sont effectivement acceptées, concédées par le patronat, avec l'appui et puis voilà du gouvernement de l'époque. Donc oui, hein, c'est un garantie minimum, mais en fait, elle mesure tout de suite en fait les failles, c'est-à-dire qu'en fait, alors oui, c'est un acquis, c'est un mieux. Seulement, elle repère très rapidement toutes les manières de contourner ça pour le patronat, voilà. Les clauses que lui va décider, en fait, c'est le patronat qui il y a un salaire minimum garanti à condition que dès lors que le rendement est normal. Oui, mais c'est le patron qui décide quel est le rendement normal. Alors évidemment, il fait plus exactement ce qu'il veut, sauf qu'en fait, il décide de ce qui est normal ou pas. Voilà. Et les clauses qui permettent de définir dans lesquelles on touche quand même son salaire garanti minimum, même si on n'a pas fait le rendement normal, bon, bah, elles sont fragiles. Bon, elle connaît la musique, en fait. Elle connaît la musique en termes de négociation. Et là où c'est, je trouve, très fort, c'est que sans monter, voilà, en abstraction et en théorie, en fait, elle pose une question qui est assez centrale. Elle dit, en fait, c'est ça qu'il faut viser, au fond. C'est par tous les moyens, quels qu'ils soient, c'est la baisse du rendement. Voilà, c'est ça qui nous tue. Voilà, c'est ça qui nous tue, c'est ça qui nous aliène. Voilà, donc il faut baisser la baisse du rendement, il faut baisser le rendement. Et elle dit, le problème, c'est qu'en fait, en système de production capitaliste, ben, c'est pas possible. Voilà. Et elle dit, et elle répond pas à ça. Elle dit, effectivement, voilà, c'est là où on en est. C'est que là, on a effectivement le point crucial. Il faut se battre de toutes nos forces pour ça, et en même temps, on ne sait pas ce que ça va donner derrière. D'ailleurs, bon, elle le dit pas, mais en fait, c'est une question qui est évidemment posée à tous, finalement, les programmes révolutionnaires, quels qu'ils soient, et tous les programmes anticapitalistes, quels qu'ils soient. C'est-à-dire que cette question du rendement, on l'évacue pas comme ça. Alors, évidemment, il y a les façons caricaturales, version capitaliste, c'est Taylor, version stalinienne, c'est Stakhanov. C'est la même chose, c'est le même. Voilà. Et le plan B, c'est quoi, en fait? Et c'est une vraie question, y compris dans une socialiste, une société socialiste, autogestionnaire, communaliste, tout ce qu'on veut. Où est-ce qu'on va le trouver, en fait, ce point d'équilibre-là? Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est très lucide, en fait. Elle ne masque pas, voilà, des enjeux qui donnent lieu, voilà, des milliers de pages théoriques qui ont tous des solutions. Elle mesure très bien ces enjeux-là, mais c'est toujours formulé à partir, voilà, d'une espèce d'expérience directe. Et là, au fond, ce qu'elle analyse, ce qui l'intéresse, c'est, et elle va terminer, les deux derniers textes sont là-dessus. Il y a aussi des textes très importants, intéressants sur l'acquis des délégués du personnel. Voilà. Je donne juste les deux, trois phrases là-dessus. Deux dangers sont à craindre, me dit-elle. L'un, que le délégué constitue simplement dans l'atelier un pouvoir qui s'ajoute aux autres et qu'il fasse, dans une certaine mesure, dépendre de ses interventions, de ses sympathies personnelles. L'autre, que les délégués, dans leur ensemble, deviennent, dans une certaine mesure, les instruments d'un parti. On peut même craindre encore d'autres choses, plus graves. Mais peu importe. Ce qui importe, c'est de parer d'un coup à tous les dangers possibles en organisant l'action des délégués. Bon, sur les bureaucrates syndicaux, c'est pareil. En fait, on peut écrire ça en 10 000 pages. Voilà. Bon, elle fait ça en un paragraphe. Voilà. Et ce qu'elle propose, en fait, voilà, des actions, des formations auxquelles les délégués assistent avec les militants de base, etc. Le problème, au fait, auquel elle est confrontée, ça c'est pareil. Alors, c'est le côté prophétique, évidemment, qui peut agacer certains. Mais, en fait, ces équations-là, la question du rendement, la question de comment entretenir ou cultiver, en fait, cet aspect voilà, de joie de l'émancipation, ce goût de l'émancipation, en fait. Comment le cultiver, comment l'entretenir, comment le relayer dans les institutions, dans le droit du travail, avec les risques qui sont derrière. On ne sait pas. Le problème, c'est qu'évidemment, si on ne résout pas cette équation-là, en fait, on sait ce qui se passe. Voilà. Est-ce qu'on sait ce qui passe ? Bah, c'est la fin, voilà, du projet d'article. Voilà. C'est un état d'esprit. Si on ne mesure pas en fait ces enjeux-là, voilà, l'état d'esprit peut être fécond, il peut être aussi très dangereux. Il peut en résulter des mouvements désordonnés. Il peut en résulter aussi, au cas où aucune action ne viendrait libérer cet élan, le désespoir, qui prélude au fascisme et à la guerre. Juin 36. Voilà.
Je pense que c'est une bonne fin.
C'est un bon armistice.
Voilà, ça dépend dans quel sens on l'entend. Donc c'était Jean Mathias qui nous présentait le livre des articles de Simone Veil, Grève et joie pure, aux éditions Libertalia. Donc vous aurez compris que Jean Mathias le recommande. Et donc c'est un ouvrage qui mérite d'être lu. On se retrouve la prochaine fois avec de la sociologie.
Musique en lutte.
Musique en lutte.
Dans les mouvements libertaires.
Le mouvement anarchiste.
Une cause militante, presque insurrectionnelle.
Nous sommes battus.
On peut faire de la musique militante tout en faisant de la pop.
La culture peut changer les choses.
Et que ce soit le peuple qui puisse se faire entendre
contre le pouvoir en place.
Les gens qui ont refusé toute autorité d'où qu'elle vienne.
Tous les chefs du gouvernement représentent le pouvoir. Et en politique, le pouvoir est forcément une forme de la lutte contre le peuple.
1, 2, 3, 4. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4 FM, l'émission sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et vous êtes maintenant dans l'émission Musique en lutte. Pour ce mois-ci, on vous propose une sélection de rap français militants. Et on va commencer tout de suite avec le groupe de rappeuses Mycos Floral avec les morceaux Choubidouba et Ne me demandez R.
Choubidouba débat, voilà le débit du débat. Je chope le beat pour dire que je kick le proc et le puits. Pratique la culture du cas, oh des cas, saut sur le carreau. Mais le cadeau c'est mes photos et le capo pour les gros porcs. Je n'oublie pas qu'on se rattrape en clic. Rap ta guettise, rêve d'abattre les flics. Qu'ils ravalent mon style. Tapage en ville, carnage en prime et cavale oblige. Ouais, c'est bateau mais ma dose pour que ma prose s'aiguise. Tout pile ou pas je repars, dans mes délires je m'égare. Suffit, je saoule vite, des fois y'a ce clown qui s'invite à chier. Entre mes pensées, il rapplique à pic. Dès que je panique ou je flippe et le silence m'échappe. Bourrine, je tire des coups, franc, tarpire. L'eau, c'est pire quand je suis pilo. C'est dire comme j'ai le niveau, je danse. Dès que j'entends du rap, danse. la sentence. Quand je dérape, j'y pense. Dès que je suis en garde-ave, je replie, je m'étire, je médite. Tant qu'il y a du temps, débile, je me le dis instantanément. L'instant se démente, tente de me faire tirement. Je jure à la cour, je dis, je n'ai pas fait de bourde. Je dis, eux me disent, je te bousille. Je joue l'artiste avec ta vie, toute pourrie. Hors jeu, catégorie poids lourd. L'enjeu, c'est de te mettre en joue. Les bleus, catégorique autour. Mon vieux, je ne sais plus qui est fou. Pour des broutilles, c'est qui l'a mis qui finit au trou. La boule au bide débarque. Avec leur délire de légal, illégal, intangible, non merci. Ridicule, mascarade, macabre. A rien que ça pue quand c'est bâtard, macabre. À câble, à table, ou pas. Façon le poulet, ça se mange chaud ou froid. Mais ce que je vois, c'est l'empilage de corps dans des cages. Le pillage de toute ta dignité. Sans doute ma haine est bien dirigée. Par l'apologie de mes erreurs, rapologie de la terreur. C'est pas logique que les leurs ne soient pas dans l'équipe ceux qui meurent, non, non.